19h03 sur France Culture La Dispute. C'est à vous Arnaud Laporte.
Merci Anne Fauquemberg. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur France Culture, ce sera avec le journal de 22h. La dispute. Ce soir, la littérature. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Jean-Christophe Brianchon, Boris Pinault et Grégoire Di Fiore. Prise de son assurée ce soir par Victoria Asper, réalisation Daniel Finot. Et autour de moi ce soir, Elisabeth Franck Dumas, Grégoire Le Ménager et Étienne de Montetti. À notre sommaire, Comment vivre en héros de Fabrice Humbert, publié chez Gallimard. Les vacances de Julie Wolkenstein chez POL. La haine de la poésie de Ben Lerner chez Alia. Présent également ce soir, Boris Pinault qui va surveiller en direct le fil Twitter Dispute FC pour donner à entendre vos commentaires. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des invitations pour l'exposition Le Vert, un Moyen-Âge inventif. Exposition à découvrir jusqu'au 8 janvier au musée de Cluny à Paris. Dispute qui s'ouvre avec le nouveau livre de Fabrice Humbert, Comment vivre en héros, publié chez Gallimard. Ça fait plusieurs années que nous parlons de Fabrice Humbert, qui est resté assez longtemps, un secret assez bien gardé des amoureux de la littérature. C'est déjà le cas depuis un ou deux livres, mais avec ce nouveau roman, le secret semble tout à fait éventé. On peut s'en réjouir. Un nouveau roman qui suit le parcours de Tristan Rivière, pour qui son père, héros de la Résistance, avait choisi le prénom de son fils en pensant au chevalier Tristan. C'est pourquoi Tristan va vivre douloureusement le premier moment de sa vie où il aurait pu faire acte de bravoure, où il se comporta, selon lui, en lâche. Qu'en sera-t-il dans une deuxième situation de ce genre? C'est là qu'une vie bascule dans un sens ou dans un autre. On écouterait bien David Bowie, en tout cas Elisabeth Franck Dumas et moi, je ne sais pas pour vous messieurs, mais on va quand même plutôt parler de Fabrice Humbert. Grégoire Le Ménager va ouvrir cette dispute sur cet épais roman, comme il y a beaucoup de romans épais en cette rentrée, mais la quantité de pages ne gage rien sur la qualité. Grégoire.
Effectivement, le livre est plutôt épais, mais il n'y a pas besoin d'être... un lecteur héroïque pour en venir à bout, puisque une des grandes qualités du livre, je trouve, c'est d'être très très limpide, très... Moi, j'aime beaucoup Fabrice Humbert depuis longtemps. Enfin, j'ai beaucoup aimé L'origine de la violence. Son livre précédent, qui s'appelait Dan Utopie, était vraiment formidable. Et pour autant, il y avait toujours un côté un peu diesel dans ses livres. C'est-à-dire que vraiment, il fallait passer 80 pages pour être vraiment immergé, pour voir les choses remonter, les idées remonter et prendre la mesure de son intelligence, parce que je pense qu'il a une vraie intelligence romanesque.
Voilà, il y a le turbo, Humbert. Là.
Là, pour le coup, on rentre dans le vif du sujet très vite, avec ce jeune type qui s'appelle Tristan, que son père a élevé en lui faisant faire de la boxe, et donc il fait de la boxe, il veut être un héros, comme son père, qui était un héros de la résistance. Héros prolo quand même, hein. C'est un communiste pur et dur. Voilà, mais il veut être comme ça. Et puis un jour, dans le métro, il y a son prof de boxe qui a l'air un peu barge, un peu
bully,
qui a l'air de chercher la bagarre et qui tombe sur plus fort que lui, sur trois lascars qui se retrouve dans le coma, je crois, enfin qui lui tape dessus.
Ah oui,
notre apprenti héros, lui, prend ses jambes à son cou et découvre en quelques secondes qu'il n'est pas un héros et qu'il est un lâche. Et puis, le livre explore ces moments-là où, en quelques secondes, une vie peut basculer, un destin peut basculer, et on peut apprendre des choses sur soi qui, après, vont nous conditionner pendant assez longtemps.
Et là, on est sur les 20-30 premières pages. Vous n'en dévoilez pas trop, hein, Grégoire Le Ménager. Je signale. Non, mais je le dis à nos auditeurs et auditrices qui pourraient se dire, s'ils nous racontent tout, posé très vite.
Ah oui, ça va très vite. De même que la deuxième grande expérience va assez vite aussi, une expérience qui dure également quelques secondes, c'est qu'il va être confronté à une autre situation où il peut être un héros ou il peut être un lâche. Il y a une jeune fille qui se fait agresser par des types dans le métro un soir, et il hésite, et là encore, il va faire un choix très vite, de manière assez impulsive, qui va conditionner la suite de son existence.
Alors, il a 38 secondes pour faire ce choix, voilà. Mais il y a trois réactions possibles, qui sont trois ouvertures vers trois vies possibles.
Voilà, et que le roman nous présente successivement. Moi, j'ai l'impression qu'il a voulu jouer un peu avec les codes narratifs des livres dont vous êtes le héros, il y a quelque chose comme ça.
Si tu fais ça, il va se passer ça,
voilà.
Etc.
Et pour autant, enfin, cet aspect ludique pourrait embrouiller considérablement la lecture, et c'est pas le cas. Il y a quelque chose, encore une fois, de très limpide, quelque chose qui avance tout le temps et qui est très intelligent, je trouve, sur la manière dont, notamment sur la manière dont les valeurs se transmettent d'une génération à l'autre. Il y a quelque chose d'assez subtil dans le roman.
On reviendra sur quelques détails et précisions vers vous, Grégoire Le Ménager, Elisabeth Franck Dumas. Pour cette première dispute de la saison, tout comme Étienne de Montetti, je suis ravi de vous retrouver, tous deux. Et Elisabeth, sur Fabrice Imbert.
Oui, alors je suis peut-être un petit peu moins enthousiaste que Grégoire Le Ménager, mais c'est vrai que ce que je trouve qu'il y a de plus intéressant dans le livre, c'est cette histoire de transmission. En fait, finalement, le livre pose la question de qu'est-ce que c'est qu'un héros aujourd'hui. C'est la question de la masculinité aussi, de la vérité, même si elle n'est pas posée comme ça. Qu'est-ce que ça serait être un héros aujourd'hui? Est-ce que c'est sauver une fille dans le RER? Est-ce que c'est être prof en banlieue? Et finalement, en fait, je trouve que cette question-là, elle n'existe pas de manière extrêmement convaincante, posée comme elle est, comme une thèse universitaire. Il y a pas mal de choses qui sont posées comme ça. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est limpide, c'est vrai que ça avance, mais on a l'impression qu'il a voulu dire énormément de choses. Et justement, pour moi, il y en a parfois un petit peu trop. C'est un petit peu trop. Résultat, tout est déroulé mécaniquement parce qu'il faut avancer. Quand bien même il y aurait ces différents possibles, chaque possible est déroulé de manière assez linéaire, finalement assez attendue, avec des phrases. Alors, il y a parfois de très très belles envolées, et puis parfois des phrases beaucoup plus plates. En revanche, je trouve que c'est infiniment plus convaincant dans cette histoire de transmission, de comment ce thème de l'héroïsme et du courage a pu passer de génération en génération. Et ça prend forme finalement assez tard dans le livre, parce que moi j'ai passé un moment à me dire, mais où est-ce qu'il va? En plus, le livre hésite un petit peu entre réalisme social et puis fable édifiante, conte. Voilà, et d'ailleurs, c'est pas mal de jouer sur plusieurs registres, mais je trouvais que ça tardait à prendre forme. Alors, j'ai pas lu les autres, donc je sais pas à quel niveau de diesel on se situe, mais il y a quelque chose d'assez poignant, enfin, de vraiment très émouvant dans un épisode tragique qui arrive vers la fin du livre. Je ne vais rien divulgâcher, mais qui réunit tout à coup tous les morceaux tombent à leur place, et je dirais que là il emporte, voilà, il y a ce tour de force et qui passe par cette idée de transmission, et donc ça c'est très bien fait. J'ajouterais aussi que il est parfois très drôle, et même pas suffisamment, je dirais. On pourrait en avoir plus, parce que je trouve qu'il a une finesse d'observation, des rapports sociaux, particulièrement la société contemporaine. Un des personnages devient maire d'une grande ville de banlieue. Bon, il y a énormément de choses très savoureuses. J'aurais pu en avoir plus, je dirais, sur le versant humoristique, même si ça aurait peut-être été ajouté encore une couche supplémentaire à un livre où il y a déjà énormément de choses, beaucoup de choses, et une vitesse qui fait que il faut cette vitesse pour tout porter, mais bon, voilà, qui a fait que j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de parfois un peu mécanique dans tout cet enchaînement. On attend un petit peu, mais il faut persévérer parce que quand ça prend forme, ça prend forme de très belle manière.
Étienne de Montetti, sur ce livre « Comment vivre en héros ».
Alors moi, je partage l'avis d'Elisabeth Dumas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, et peut-être beaucoup trop de choses, dans ce livre, qui essayent de... C'est pas convaincre, il n'y a pas de démonstration du tout, mais cette situation de l'héroïsme, elle est présentée effectivement dans le monde de la boxe, le RER le soir, les classes difficiles, la cité, l'engagement politique. On a l'impression que c'est une sorte de gamme, des gammes autour de cette notion d'héroïsme. Et ça donne parfois au livre un aspect un peu linéaire, c'est-à-dire la succession, on l'a dit assez, et je partage cet avis, rapide, avec un turbo, de la vie de ce Tristan Rivière. Peut-être qu'on aurait aimé s'arrêter à deux ou trois moments très forts et peut-être faire l'économie de son histoire personnelle, le dilemme entre la réalisation publique et le bonheur privé. C'est pas très très original. En revanche, alors là j'avoue que ça m'a beaucoup amusé, c'est quand il fait un arrêt sur texte, pas sur image mais sur texte, où il reprend le pouvoir dans sa narration, et où là carrément, de manière effectivement totalement affichée, il dit, ben voilà, il y a trois hypothèses face à cette situation, soit tu fais ça, soit tu fais... Et plutôt que ce soit naïf ou infantile, etc., là, j'ai trouvé que ça redonnait du rythme à son récit, qui sinon aurait été un roman contemporain, on en lit beaucoup, la question des banlieues, la question du caïd de banlieue, le pouvoir, le maire qui est confronté à des choix et à des compromissions. On l'a lu, ça a été parfois dans des livres très très talentueux, très intéressants, très forts. Là, c'est bien. Mais son art, à plusieurs reprises, que ce soit sur ce personnage de Tristan, Marie, sa femme, à plusieurs reprises face à une situation donnée, que ce soit lors d'une agression, ou le courage d'être fidèle à son engagement, ou le courage d'être fidèle à ses électeurs, etc. Quand là, il reprend le pouvoir et qu'il pose vraiment la question en termes de dilemme, ça, j'ai trouvé ça très très bien et très très réussi. Ça m'a permis de finir ce livre non sans plaisir, vraiment. Après, vraiment poser des questions sur les faiblesses de la structure du livre, quand même.
Alors, faiblesses, je partage certaines de ces réserves. Moi, L'origine de la violence, pour moi, reste vraiment, à l'heure actuelle, le meilleur livre de Fabrice Humbert. Est-ce qu'il y a une dimension scénaristique et un protocole que je trouve parfois un peu lourd, parce qu'il suit ses différents chemins d'une façon appliquée, et l'application n'est pas toujours la source du plus grand plaisir, en tout cas pour moi, lecteur. Et il y a des éléments, par contre, sur lesquels j'aurais aimé qu'il s'attarde. Il s'attarda, notamment la figure du père, c'est la collision de l'actualité, il y a Jack LaMotta, grand boxeur, a disparu, et la figure du Marcel Cerdan est importante, le père Marcel, et la question de la boxe, je ne dévoile pas grand chose en disant qu'à un moment donné dans la vie de Tristan, son père meurt, et qu'il y a de très belles pages à ce moment-là sur la figure figée de ce père, et puis il y a les mots rassurants de sa mère aussi, qui donne tout, qui veut aider son fils à se débarrasser de cette image de lâche qu'il a de lui-même. Enfin, il y a des rapports comme ça très très fins de filiation là aussi, et on retrouvera aussi des liens avec sa femme Marie, avec là aussi différentes hypothèses, on va dire, la façon dont on peut tourner un couple selon les choix de l'un et de l'autre. Beaucoup d'éléments qui m'ont ému, d'autres que j'ai trouvé effectivement un peu trop formalistes. Grégoire Leménager, vous entendez ces réserves ?
Oui, j'entends. Enfin, je reconnais que le livre, par moment, a un côté un peu bavard, je pense. C'est Elisabeth qui semblait dire ça. Je reconnais qu'il y a une forme de raideur, par moment, dans la conduite de la narration. Mais en même temps, tout ça est vraiment contrebalancé, d'abord, par, encore une fois, par l'intelligence avec laquelle il tourne de la notion, autour de la notion d'héroïsme, y compris pour nous dire d'ailleurs qu'il faut peut-être se méfier du potentiel de séduction assez toxique de l'héroïsme, qui peut nous inhiber, nous faire faire des bêtises, voilà. Donc ça, j'étais vraiment sensible au déploiement de cette intelligence-là qui s'intègre complètement dans le récit. Et les passages un peu dissertatifs, disons, me semble-t-il, s'intègre bien dans le récit. Et puis enfin, moi, j'ai été assez sensible à quelque chose que j'avais jamais lu chez lui, qui est cette forme d'humour. Mmh. C'est-à-dire que là, pour le coup, il y avait toujours quand même quelque chose d'assez grave. Enfin,
c'est un humour très noir.
C'est un écrivain assez sérieux et assez grave quand même, Fabrice Imbert. Et là, pour le coup, il y a une forme de légèreté qui emporte le morceau et qui fait passer tout ça et qui fait que ces défauts-là me semblent absolument pas rédhibitoires. Et puis il nous dit, et mine de rien, il nous retrace la vie d'un homme. C'est toujours intéressant d'avoir la vie d'un homme du début à sa fin, ou du début à un âge plus mûr. Et à travers ça, à travers la figure du père, à travers la figure des enfants qui se profilent et tout ça, il nous raconte quand même aussi 50 ans d'histoire de la société française avec ce passage des valeurs de la résistance à des valeurs qui sont tout autres et lui-même, en fait, entre son père et ses enfants, entre l'idéal un peu chevaleresque des résistants communistes et le culte du pognon qui arrive et qui le dépasse un peu, lui-même, il a été un maillon, il a été un intermédiaire dans cette chaîne-là. Et il ne sait pas très bien ce qu'il a fait passer, en fait. Je trouve ça vraiment intéressant.
Ce qui me touche, c'est cette fragilité du personnage qui est très réussi. De même, quand il retrouve le fameux bully, hein, qui s'était fait donc mettre dans le coma, son prof de boxe, quand il le retrouve des années plus tard, pareil, il y a une scène moi qui me saisit à ce moment-là. Je trouve ça très
oui, c'est bien
très
vu
beau.
Parce que si ma mémoire est bonne, Bouly lui rend sa liberté au fond.
Oui.
Et Bouly qui le libère de ce qu'il pensait être une faute et une lâcheté. Mm. C'est vrai que c'est assez bien. Il faut qu'il se méfie de ses dons, en fait. J'ai l'impression, Fabrice. Non, c'est pas un compliment empoisonné. L'intelligence pour un romancier, ça peut être la plus belle et la pire des choses. Mm. J'ai quand même le sentiment qu'il a voulu trop en dire et cette narration totale de la vie de Tristan, non pas Imbert mais Rivière, c'est à la fois passionnant et c'est un peu la limite de son livre quand même.
Elisabeth Franck Dumas.
Oui, je suis d'accord avec le côté thèse à dérouler comme ça, sauvé par... ce que vous lui repiochiez de la porte qui était ce côté scénarisé. Enfin, c'est...
Ouais.
Moi, j'ai trouvé que, heureusement quand même qu'il y avait cette vitesse qui emportait, sinon, parce que ça empêchait que l'ensemble ne ressemble intégralement à un déroulé de thèse.
Bon, avis partagé, mais enfin quand même, on parle d'un bon
et
roman.
Et drôle.
On parle d'un bon roman, tous les trois ici, tous les quatre. On lui cherche un peu la petite bête à Fabrice Imbert, mais c'est parce qu'en l'occurrence... Pour ce qui me concerne, c'est vraiment un auteur dont je suis avec attention. Les publications, je ne suis pas le seul, je vois Grégoire Le Ménager partage ce goût ancien.
J'aime beaucoup.
Pour Fabrice Imbert.
Il se renouvelle en plus.
Oui. Ça, c'est toujours. Et ça, c'est extrêmement louable toujours. Comment vivre en héros de Fabrice Imbert, publié chez Gallimard, à suivre dans la dispute. Nous allons parler de Julie Wolkenstein et de Ben Lerner. Alors, si vous faites partie des premiers lecteurs de ces livres, que vous avez des avis à partager, vous pouvez le faire en suivant le fil Twitter Dispute FC.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et poursuivre donc ce nouveau livre de Julie Wolkenstein, Les Vacances, publié chez POL.
Je passe aux aveux. Allez, à toi, je...
ont un peu délié Jacquenot. Ça fait pas de mal non plus, ça me rappelle aussi les nuits de la pleine lune d'un certain Éric Rohmer, puisque l'une des premières questions, ou l'une des questions posées par ce nouveau livre de Julie Wolkenstein, Les Vacances, c'est « Et si la nouvelle vague avait débuté en 1952 ?» Et si Éric Rohmer était venu à bout du tournage de son adaptation des Petites filles modèles, d'après la comtesse de Ségur, et si son producteur, Joseph Kéké, qui deviendra plus tard ministre de la Justice du Bénin, n'avait pas interrompu le tournage, et si Sophie n'avait pas donné comme prénom Pauline à la serveuse du Starbucks de la gare Saint-Lazare, et si donc Paul n'avait pas lui donné suite de Gaspard. Enfin, beaucoup de questions, grandes et petites, dans ce livre Enquête, Les Vacances, alors qui n'en sont pas pour nos deux héros universitaires, l'une à quelques instants, presque quelques jours de la retraite, elle compte les jours, et un tout jeune thésard, Étienne de Montetti, qu'on va suivre dans leur quête, leur enquête.
Oui, en effet, tout le monde sait que la comtesse de Ségur était née Rostopchine, et c'est donc un livre qui est bâti un peu comme des poupées russes. Voilà, je voulais le dire.
Très bien, bon, bah, écoutez, c'est fait. Vous l'avez préparé hier soir,
Non, à l'instant, en vous écoutant introduire le livre. Parce que ça commence effectivement tout simplement par un point que j'ignorais, c'est qu'Éric Rohmer avait réalisé un film qui était une adaptation du premier roman de la comtesse de Ségur, Les Petites filles modèles, et que ce film, pour des raisons mystérieuses, n'avait jamais vu le jour. Et de ce point, de l'histoire du cinéma qui est exact, qui est avéré, effectivement, elle imagine deux personnages, une chercheuse effectivement en fin de carrière et un jeune thésard, lui en début de carrière, qui s'intéresse à ce sujet et qui partent en Normandie sur les traces de ce tournage et du mystère de la disparition physique de ce film. Que s'est-il passé dans la vie de Rohmer pour qu'il y renonce? C'est un livre où s'emboîtent beaucoup de choses. La première partie, c'est plutôt un roman presque de mœurs, notamment autour de l'IMEC, l'Institut de la mémoire et de l'édition contemporaine, je crois, qui est en Normandie à l'abbaye d'Ardennes, près de Caen, et où là, des chercheurs, nos chercheurs en l'occurrence, mais d'autres aussi, vivent une sorte de vie monacale, justement, dans l'abbaye d'Ardennes. Et il y a des scènes de comédie quasiment sur catégorie de la population que sont les chercheurs. On est un peu dans un tout petit monde de David Lodge, avec tous les codes et les petits travers de cette population. Et puis il y a également une enquête où là, de manière assez évidente, Julie Wolkenstein paye une forme de dette à ses lectures d'enfance, et évidemment la comtesse de Ségur de bout en bout, mais aussi il y a quelque chose du mystère de la chambre jaune. Il y a une enquête où on prend sa voiture et on file dans un lieu pour savoir si ce n'est pas là que se trouve la clé de l'énigme. Et puis peu à peu, sans trop dire sur ce livre, les personnages prennent leur envol vis-à-vis de cette histoire. Rohmer et la comtesse de Ségur s'éloignent et on commence à découvrir véritablement Paul et Sophie, petit clin d'œil un peu téléphoné de l'auteur pour désigner ces personnages. Et peu à peu, le livre prend un nouveau souffle et devient simplement l'histoire d'une femme et d'un homme, d'un jeune homme, et leur vie, qui n'a rien à voir avec la première intrigue, bien, commence à se déployer. Et j'ai trouvé que c'était un livre très réussi, qui finalement, après être parti un petit peu prisonnier de son sujet qui était Rohmer, qui était la comtesse de Ségur, finalement prend son indépendance et devient foisonnant, et j'ai pris un immense plaisir à le lire.
Grégoire Leménager, sur ses vacances de Julie Wolkenstein.
Oui, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à le lire. Il y a une forme de fraîcheur, de malice aussi en permanence. Je trouve que, outre le fait qu'on a le bonheur de se promener en Normandie dans une Twingo, avec cette vieille dame...
Il faut supporter la fumée de cigarette, par
contre. Et la playlist qui parfois défie l'entendement.
Oui, c'est avec une radio concurrente de celle-ci.
Je crois.
On ne va pas citer son nom, mais on y entend des chansons comme celle qu'on vient de...
Pas beaucoup, hein.
Non.
Nostalgie, on peut le dire.
Bon, c'est nostalgie. Donc, j'en étais où ?
On entend pire sur Nostalgie. Et meilleur, parfois aussi.
Non, non, mais c'est très.
On part en Twingo.
C'est vraiment un livre qui a beaucoup de charme. Je trouve que Étienne en a bien parlé. On est attrapé par ce jeu de pistes là. On va de point de détail en point de détail. On se rend compte que ce qui apparaissait comme vraiment un point de détail finalement cache quelque chose d'important. Je trouve que le personnage de la dans ce truc un peu marabout bout de ficelle là, en particulier le personnage principal de cette prof d'université qui prend sa retraite devient très émouvant, vraiment par moments.
Vous trouvez que c'est le personnage principal, Grégoire ?
Oui, je trouve qu'elle l'emporte clairement sur le jeune
homme. Ils sont à deux voix, je l'ai pas dit, mais oui, de manière alternée. Oui,
les chapitres alternent génération.
Normalement, c'est Tintin et Milou, mais effectivement, je trouve qu'elle l'emporte. Que Tintin l'emporte sur Milou.
Vous ne trouvez pas qu'elle l'emporte ?
Si, en densité, oui, c'est vrai. En densité, oui.
En attendant la vie d'Elisabeth Franck-Dumas.
Et puis, il y a quelque chose d'assez crépusculaire chez cette dame. Il y a quelque chose de très crépusculaire aussi dans l'état de l'université française qui est évoqué au passage et que Julie Wolkenstein connaît bien, puisqu'elle est elle-même maître de conférence à Caen, je crois. Et voilà. Et le livre, oui, a beaucoup, beaucoup de charme. Et Romère est un prétexte, mais un prétexte qui en même temps imprègne le livre avec beaucoup de choses sur sur ce qu'on dit, ce qu'on cache dans une conversation. Il y a une forme de marivaudage qui s'installe entre les deux personnages principaux. Et il y a quelque chose qu'elle explore assez finement aussi, qui est le rapport entre la fiction et le réel. On se demande toujours, face à un livre, quelle est la part de biographie dedans. Et elle a tendance un peu à inverser la chose. Elle l'avait déjà fait dans un autre livre, je crois. Et à dire que nos vies peuvent être beaucoup, beaucoup plus influencé et nourri par de la littérature qu'on le croit. Et ça, elle le démontre même. Mais il y a des longueurs, et puis quand on commence à s'ennuyer, hop, il se passe quelque chose et ça repart. La Twingo redémarre, et nous aussi.
Elisabeth Franck-Dumas, sur celui de Julie Wolkenstein.
Oui, je me demandais, comme on n'utilise pas d'anglicisme dans cette émission, je me demandais quelle était la traduction du Feel Good Book.
Un livre pour se sentir bien,
Elisabeth. Roman roboratif, je trouve que c'est vraiment... Il y a un petit côté, on le lit.
Ça sonne alors pas pareil, hein.
Non.
Quand on le dit.
Oui, mais alors roman pour se sentir bien, c'est un peu plateau.
Dire un roro, alors.
Ouais.
Mais est-ce que c'est un compliment ou est-ce que c'est un reproche ?
Alors.
Un petit peu des deux. Je trouve que ce livre a les qualités et les défauts du
roro.
Voilà.
Lançons ce terme.
Du roman roboratif. Non, mais c'est vrai que l'histoire est assez géniale et en plus elle est, disons, aux deux tiers vraie. Et elle est assez folle. Le début, je le trouve très réussi. Tout ce passage à l'IMEC, on se demande, ces personnages se sont croisés, ne se connaissent pas, on se demande à quel moment ils vont se rencontrer. Il y a une montée, là, il y a une attente, il y a une forme de suspense qui est très finement organisée. Après, il y a des petites longueurs aussi, moi j'ai quand même trouvé, avant que ça reprenne, avant que le personnage principal de Sophie Bogorodich reprenne, enfin voilà, que sa vie devienne un enjeu du livre. Après, ben, je dirais qu'il y a aussi les petits défauts du feel good book, du roman roboratif, où vous parliez de poupées, vous parliez de poupées russes. Il y a même un passage où un des personnages va visiter la maison de la comtesse de Ségur, et il y a une salle, voilà, où il voit toutes ces petites poupées qui ont été installées, et ils trouvent que quand même c'est un peu claustro et un peu grotesque. C'est parfois aussi l'effet à certains moments que le livre m'a fait, c'est-à-dire que il y a des petites poupées qu'on arrange comme ça, je dirais que tous les rebondissements qui sont un petit peu, il y a quelque chose de très articulé, une petite mécanique tellement bien articulée comme ça que au bout d'un moment, moi, je me suis sentie un petit peu claustrophobe. Tout était très organisé et prévu et annoncé. C'est-à-dire qu'on est dans le monologue intérieur de tous les personnages qui disent « Mais au fond, pourquoi pas ? Pourquoi est-ce que je ne ferais pas ça ? Ah et tiens, je ferais ci. » Tout est très expliqué, comme pour essayer de donner une vraisemblance supplémentaire à une intrigue un peu rocambolesque. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu fatigant. Les personnages qui n'arrêtent pas de raconter ce qu'ils font. Je prends du thé, je mets mes chaussettes. Je me suis demandé à un moment si c'était une référence au cinéma de Romère. C'est-à-dire, non mais vraiment, si elle avait essayé littérairement d'évoquer quelque chose du cinéma de Romère, où il y a aussi quand même beaucoup de moments, de petits riens de la vie de tous les jours, parce que là, il y a quand même de nombreux passages où elle nous raconte des choses qui n'ont absolument aucun intérêt. Est-ce que c'est l'effet de réel, l'effet Romère ? Je ne sais pas. Et ce qui m'a un tout petit peu plus gênée, c'est le ton d'ensemble. C'est-à-dire que c'est très sympathique, c'est charmant, encore une fois, c'est feel good, voilà. Alors, c'est cette amitié transgénérationnelle. Il y a un petit côté, Agnès Varda JR sur les routes de France, hein, un petit côté, visage village de la rentrée littéraire. Non, j'exagère, mais alors tout les sépare, mais en fait, ils se rendent compte qu'ils aiment fumer et qu'ils aiment Radio Nostalgie. Enfin, et alors elle, c'est la petite dame à qui on la fait pas. Et puis lui, alors qui dit bouffe, qui dit clope, qui utilise du verlan et qui doit même expliquer à Sophie. Alors je ne sais pas quel âge a Sophie. Est-ce qu'elle est si vieille qu'elle n'aurait pas entendu Mitterrand parler verlan à la télévision dans le même effort de jeunisme? Je ne sais pas. Enfin, il y a des petites choses comme ça que je trouve un peu trop fabriquées. Voilà, c'est très fabriqué. Et dans le ton, il y a aussi même ces personnages qui sont tous les deux des chercheurs universitaires semblent s'excuser d'être cultivés. Voilà, chaque référence est explicitée. Alors si un personnage sait ce que c'est que l'architecture brutaliste, il va dire pourquoi, comme s'il fallait s'excuser. Et je trouve ça très étrange pour un livre qui finalement est un hommage non seulement à la culture, mais à la recherche. Ces personnages qui passent leur temps à s'excuser de savoir ce qu'ils savent. Voilà. Peut-être que je suis un peu mauvaise joueuse, mais je dirais que mes interlocuteurs étaient tellement enthousiastes que voilà, pour
il y a une belle charge.
On se dispute un petit peu.
Absolument.
Mais encore une fois, ça a aussi toutes les qualités.
Non. Ne vous excusez pas. Surtout pas.
Je disais, c'est tout à fait roboratif, mais voilà, il y a des choses qui m'ont gênée.
Alors, Roro, mais quand même un peu pénible par moment. Étienne de Montetti.
Oui, j'entends effectivement le reproche de la construction, notamment au début. Je trouve que quand les personnages prennent leur envol, cet emboîtage, je sais pas comment on dit, extrêmement rigoureux, se libère, elle se lâche. Et j'aime assez cette idée, alors peut-être que c'est très téléphoné aussi, de qu'on quitte le monde enchanté au fond de la comtesse Ségur pour une vie parfois même un peu triste d'ailleurs de cette femme. Et j'ai assez aimé ce va-et-vient entre un monde irréel qui est celui de la comtesse Ségur, Romère aussi un monde entièrement reconstitué, tout ça c'est la fiction, et puis leur existence qui est ni fracassée, ni bouleversante, ni exceptionnelle. Et qui est effectivement présenté avec une abondance de détails d'époque, peut-être un peu trop, effectivement, on avait un petit peu assez de l'autoradio, on avait parfois envie de l'éteindre, mais j'ai trouvé que c'était assez bien mené, ce va-et-vient entre la construction d'une œuvre romanesque ou en fait, cinématographique, et puis la vie telle qu'elle était, même parfois assez banale.
Grégoire Leménager, sur ses réserves ou critiques?
Non, ben il y a forcément quelques réserves qui sont justes. Non, mais j'ai dit aussi un peu tout à l'heure. Il y a effectivement des longueurs, des moments où on s'ennuie un peu, où on ne sait plus très bien où ça va. Je suis pas d'accord avec Montetti. En revanche, sur le début, qu'effectivement, moi je trouve très chouette. Le côté David Lodge lui va très bien à Julie Wolkenstein. Et la description des chercheurs à l'IMEC, elle est formidable, quoi. Enfin, et quand on a fréquenté un tout petit peu ce milieu-là, on y retrouve beaucoup de choses. C'est très amusant. Et quand on l'a pas fréquenté, sans doute aussi qu'on s'amuse. Donc ça me gêne pas tellement. Je trouve que c'est dans la dernière partie, je trouve qu'effectivement les personnages se mettent, et en particulier cette dame, se mettent à prendre une épaisseur telle que tous les points que signale Elisabeth, là encore, ne sont pas rédhibitoires, quoi, parce que oui, il y a un côté très très bien huilé, il y a des retournements de situation qui sont un peu pas forcément téléphonés, mais qui sont un peu systématiques, un peu mécaniques, quoi. Mais c'est pas très gênant. En revanche, c'est dans le ventre mou du livre, quoi. Là, il y a un moment quand ils visitent les différents châteaux. Peut-être qu'il y a une visite de château dont on aurait pu se passer. Mais
c'est pas celui-ci que je pensais, je me suis mal exprimé. C'est pas du tout le côté IMEC que j'ai trouvé.
Ah oui, d'accord.
Au contraire, c'est l'enquête.
Ah oui.
Mais il m'a semblé que quand on lisait Le mystère de la chambre jaune, c'était vraiment ça et que ça pouvait être aussi une sorte d'hommage à ces livres qui tiennent pas par leur liberté romanesque, mais au contraire, par toutes ces conventions et on va d'un endroit à un autre. Il faut l'accepter et si ça agace, on passe à autre chose.
Je dois dire que la dimension cinématographique m'a quand même intéressé. Alors, un peu d'émotion, puisque j'en profite pour saluer la mémoire de mon ami Michel Bouju. On avait fait il y a très longtemps sur cette antenne une émission d'été sur qui s'appelait Le cinéma retrouvé. Et chaque jour, on parlait d'un film qui n'avait pas vu le jour avec un de ses témoins directs. Alors il se trouve que ce film de Romère ne faisait pas partie de notre liste, mais on avait pu constater jour après jour que les films inaboutis charrient beaucoup de légendes, de secrets, et qui sont enfin. Ça amène du romanesque, et ça je trouve qu'elle s'en empare quand même formidablement bien. Et puis, il y a quand même des choses assez drôles dans ces visites de château que vous n'avez pas évoquées. C'est-à-dire, demain soir, dans la dispute, on parlera de cette nouvelle série américaine de Deuce, sur le début de l'industrie du porno à New York. Là, on voit les différentes versions des petites filles pas très modèles. Tous les films érotiques, voire pornographiques des années 70 à partir de la Comtesse de Ségur. Moi, j'avoue que ça m'a assez amusé. Et puis, je pensais au dernier film de Romère qui était Astrée et Céladon, qui jouait avec une forme de libertinage dans un choc comme ça temporel assez incroyable. Et puis, il y a quand même cette revue Froufrou, dont on a évidemment envie d'être les lecteurs. Alors, dans une note, ou pas. Allez, Froufrou, vous expliquez de quoi il s'agit, Elisabeth Franck-Dumas, nos auditeurs.
Qu'est-ce que c'était, Froufrou? C'était une petite revue un peu légère des années quoi, 50,
ouais,
60,
50,
avec,
ouais,
des, 50, oui. Avec des jeunes filles dénudées qui racontent, mais pas trop, qui racontent toutes qu'elles sont danseuses, non? C'est ça? Ouais, moi, j'ai pas un énorme appétit pour Froufrou.
Non, mais parce qu'elle raconte, ça fait partie de l'enquête, j'ai dit Wackenstein, dans une note à la fin, vous l'avez sous les yeux,
elle précise à la fin. Hein. Oui, donc tout ce que je raconte sur les petites filles modèles d'Éric Romère est documenté et vérifié. Tout ce qui concerne la famille d'un des personnages, je l'ai inventé. Quant au dernier, au seul peut-être exemplaire du numéro 20 de Froufrou proposé sur Amazon, c'est moi qui l'ai acheté, mais je le tiens à la disposition des chercheurs du monde entier qui souhaiteraient le consulter.
Voilà. Mais alors, on imagine, voilà, en lisant cette note, on imagine l'excitation de Julie Wolkenstein.
Oui.
Réussissons à trouver ce numéro,
oui.
C'est génial. Et ben ça, cette excitation-là, qui est l'excitation du chercheur, qu'on attend dans tout le début du livre, parce que moi, comme Grégoire Le Ménager, j'ai adoré tout le passage à l'IMEC, et je me disais, il est là le thriller, on va pas en sortir, et on va découvrir quelque chose. Et puis je trouve que, comme tous les enchaînements sont tellement mécaniques, ah ben oui, tout naturellement, Froufrou, c'est dans telle université, dans telle... Tout est tellement facile qu'en fait, au bout d'un moment, l'enquête perd de son jus, perd de son suspense, perd de son intensité, parce qu'elle, ça, je trouve qu'elle ne le transmet pas avant que ça reprenne, parce que, comme vous l'avez tous les deux souligné, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très émouvant dans les découvertes personnelles que fait cette Sophie Bogorodic. Mais voilà, justement, cette intensité universitaire, cette recherche, bon, finalement, c'est assez vite évacué.
Étienne de Montetti, pour finir.
Moi, je reproche juste à Julie Wolkenstein cette note, parce qu'on n'a aucunement envie de connaître les secrets de fabrication de ce livre, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai.
Ah si, on a envie.
Absolument pas.
Alors.
On n'a absolument pas envie. L'auteur nous livre son livre tel qu'il est et son secret de fabrication. On n'a pas à voir les coutures de son livre. Ça, moi, je suis absolument
radical.
Vous n'avez
pas envie d'aller consulter la cote RHM.
On a compris qu'Arnaud Laporte avant.
J'ai envie de me laisser faire par son charme romanesque.
Non, vous n'avez pas envie d'aller vérifier l'IMEC. Pourquoi alors ce mini-débat là? Est-ce qu'on a envie de savoir ou pas ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai dans ce Grégoire Le Ménager?
On a assez peu finalement parlé de ce film disparu de Romère, sur lequel on apprend beaucoup de choses. Et on apprend des choses qui sont tellement farfelues, qui sont tellement romanesques, qu'on se demande dans quelle mesure elle les a inventées ou pas. Et le fait qu'elle nous dise à la fin que non, elle n'a rien inventé, je suis désolé, le producteur là, qui est reparti dans son pays, en Afrique, pour devenir garde des Sceaux, qui à un moment a été accusé de viol et qui a quand même été défendu par qui? Par Robert Badinter.
Oui, mais ça,
il y a plein de choses.
Lorsqu'il était étudiant en droit,
vous trouverez ça dans une biographie de Romère, mais je trouve que l'entreprise romanesque doit s'affranchir de tout ça et mêler le vrai, le faux, l'interprétation.
Mais elle s'en affranchit, Étienne.
Elle s'en affranchit, mais avec sa note à la fin. Je pense que c'est une erreur de méthode d'un romancier de donner ses secrets. Moi, là-dessus, je n'ai jamais apprécié les bonus du livre où l'auteur surgit pour nous dire voilà comment j'ai procédé.
Elisabeth Franck-Dumas, sur ce point.
Non, mais il est vrai que, je vais répéter ce que je disais tout à l'heure, mais lisant le bonus, je me suis dit, en fait, finalement, il y a... tout le mystère, toute la quête, toute cette entreprise-là, on l'entrevoit au début du livre, on l'entrevoit dans cette note de fin, et on se dit, ah, moi, ça a plus pointé, ça m'a plus servi à pointer ce qui manquait.
Donc, elle n'aurait pas dû.
Elle n'aurait pas dû, allez. Nous sommes bien d'accord.
Alors, on va faire 2-2, parce que moi, je suis plutôt du côté de Grégoire Le Ménager.
Ça m'a bien amusé.
Match nul. Et un petit commentaire, Boris Pino, sur Twitter.
Oui, Sylvie-Marie Braillard est très enthousiaste. Pur moment de bonheur, écrit-elle, cette balade normande sur les traces de Romère et de la comtesse de Ségur. Elle note comme vous une touche d'humour dans l'analyse du monde universitaire. Un de ses livres favoris de la rentrée littéraire. Une histoire délicieuse qui confirme le talent de Julie Wolkenstein après Adèle et moi.
Voilà pour ce commentaire qui clôt cette dispute sur les vacances de Julie Wolkenstein, publiée chez POL.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et le troisième temps de cette dispute consacrée ce soir au livre avec un petit ouvrage de Ben Lerner, petit par la taille, un romancier dont nous avons parlé par deux fois dans la dispute pour ses deux romans publiés en français, en tout cas, Au départ d'Atocha et 10h04, tous deux publiés chez L'Olivier. Ce soir, il s'agit d'un court texte publié chez Alia, intitulé « La haine de la poésie » dans une traduction de Violaine Huismain. De la poésie. Là, on rentre dans le dur, Elisabeth Franck Dumas, avec ce titre, alors, qui est vraiment le titre original dans sa traduction très littérale. Oui. Ce texte de Ben Lerner. Du texte, parce que c'est un essai, en même temps, il parle beaucoup de lui. C'est presque un récit autobiographique, finalement.
Oui, comme d'habitude avec Ben Lerner. Il parle beaucoup de lui, oui. Et puis il mélange les genres, et puis il finit par parler beaucoup de poésie et d'incapacité à écrire de la poésie. Mais je rassure les auditeurs, il fait ça avec beaucoup d'humour, là encore, et beaucoup d'intelligence.
Peut-être précision, parce que j'ai dit, on le connaît nous comme romancier, mais aux États-Unis, il est connu d'abord comme poète.
Il a d'abord été poète, mais il est d'abord connu comme romancier.
Oui, enfin, on n'est jamais
si
très célèbre à part les romans.
Après, voilà.
Mais il a une œuvre de poète.
Oui, il a une œuvre de poète. Je crois qu'elle n'est pas traduite.
Non, elle n'est pas traduite, c'est pour ça que je précise.
Là-bas aussi, il est plus connu comme romancier, puisque c'est la thèse du livre. Tout le monde déteste la poésie, donc personne ne le connaît comme poète. Bon, le titre est provocateur à dessein, évidemment, parce qu'on a envie d'aller y voir de plus près, surtout quand on sait que Ben Lerner est poète. C'est un drôle de titre. Alors, la haine de la poésie, c'est pas pourquoi haïr la poésie. Sous-entendu, on va vous donner des raisons de haïr la poésie, même si c'est exactement ce qu'il fait. Mais pourquoi on la hait ? Pourquoi tout le monde déteste la poésie ? Et alors là, nos auditeurs se disaient « Ah bon, tout le monde déteste la poésie ?» On pensait qu'au pire, les gens étaient indifférents à la poésie. Mais dans la thèse de départ, c'est vraiment, Ben Lerner l'explique, tout le monde déteste ça, à l'intérieur comme à l'extérieur, dedans, dehors. C'est-à-dire les lecteurs, les non-lecteurs et puis les poètes.
Alors, les poètes publiés, vous voulez dire ?
les poètes publiés, on lui pose la question. Les poètes publiés, les poètes non publiés, les très mauvais poètes, il en est quelques exemples. Alors, quel est le problème ? Comme il le dit lui-même, le problème fatal de la poésie, ce sont les poèmes. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Là, vous lisez ça, vous éclatez de rire, si vous êtes comme moi. Je trouve ce livre très, très drôle. Mais en fait, le problème, c'est tout ce qui se perd, finalement, entre le désir de faire prendre forme à une certaine, à une expérience de la réalité, à une forme de transcendance, d'accès au divin, que sais-je, et puis le moment où on le couche sur le papier. Alors cet échec-là, c'est pas quelque chose de très nouveau. On pense beaucoup à Beckett, je trouve, dans le livre. J'attendais le moment où il allait en parler. Il n'en parle pas, c'est pas le sujet. Mais donc voilà, la première raison de la haine de la poésie, c'est cet écart impossible à combler entre le poème idéal, l'idéal de poésie avec un P majuscule, et puis le poème réel, celui qui finit par être écrit, la poésie avec un petit P, qu'on vous fait apprendre par cœur à l'école, une dichotomie qu'il emprunte au poète et critique Alan Grossman, qui fait que la poésie n'est pas difficile, elle est impossible. Ça fait que tout le monde la déteste. Les poètes, parce qu'ils accumulent les échecs, à tel point, comme le décrit Ben Lerner, que même l'échec, enfin le fait de démissionner est devenu une convention poétique. Incroyable le nombre de poèmes où les poètes racontent qu'ils arrêtent. Et puis les lecteurs qui en attendent trop, qui en attendent à la fois trop, pas assez. Ils montrent combien... Alors, il va lister toutes les critiques qu'on a pu faire à la poésie à travers l'histoire, qui se contredisent d'ailleurs souvent entre elles. Tout y passe, et en plus d'être un livre extrêmement informatif, érudit, assez beau, enfin je reviendrai sur des exemples précis, c'est aussi un formidable ouvrage de rhétorique, puisqu'évidemment, l'idée de rhétorique inversée, de rhétorique négative, puisqu'évidemment l'idée de Ben Lerner, on l'aura compris, c'est que toute cette critique de la poésie ne sert qu'à montrer en quoi elle est précieuse, ne sert qu'à la faire aimer davantage. Et comme tout bon ouvrage de rhétorique, il est aussi plein d'exagérations, de mauvaise foi, d'humour, son expérience personnelle, il exagère, il critique les critiques, il critique les défenseurs, tout le monde y passe, Platon, Whitman, Sidney, Shelley, et un pauvre malheureux qui s'appelle William McGonagall, et qui a écrit, selon Wikipédia, le pire poème de tous les temps. Ouais. C'est vrai qu'il est quand même
un beau titre.
Gratiné. Bon, la plus grande mauvaise foi étant évidemment que si la poésie est un échec, c'est justement pour ça qu'elle est encore vivante. Mmh. Voilà, et ça, il ne le dit jamais, mais on le devine,
oui,
on le sait, on
le comprend. C'est le sous-texte, la poésie ne peut être qu'un échec.
Ne peut être qu'un échec. Ben donc on continue, voilà, pour rater mieux, comme dirait l'autre. Ouais. Mais donc voilà, je trouve que c'est à pas mal de moments assez émouvant, justement, parce qu'il parle de son expérience personnelle, parce qu'il relie la position du poète à celui de l'enfant, et parce qu'il détaille aussi certains poètes qu'il aime, certains poèmes. Je trouve que c'est très réussi et qu'évidemment, ça atteint son objectif de vous donner envie déjà d'aller lire tous ces poètes, à part peut-être William McGonagall.
C'est belle défense de cette haine, si je puis dire. C'est le titre, la haine de la poésie. Étienne de Montetti, sur ce livre de Ben Lerner.
Alors, c'est un livre qui est tombé au milieu de mes lectures de rentrée de manière sympathique, un peu comme une contre-programmation, parce que je me faisais la remarque que nous vivions ce qu'on appelle une rentrée littéraire, et que dans cette rentrée littéraire, il n'était question que de romans, comme si la littérature, ça n'était que le roman, et la poésie est devenue vraiment le parent pauvre de la littérature contemporaine, pour ne rien dire du théâtre en tant que texte lui-même, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, j'ai lu cet essai avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Il m'a rappelé... non pas Beckett, mais Marcel Aimé, le confort intellectuel dans lequel Marcel Aimé à plusieurs reprises évoque de la poésie. Il désosse un poème de Baudelaire, je crois que c'était La Beauté, pour montrer l'insigne faiblesse de Baudelaire. Et puis à un autre moment, il y a un faux poème moderne, un poème sans vers, etc., issu de la résistance, un peu abscon, faut bien le reconnaître, et dans lequel il fait une analyse de texte prodigieuse pour montrer des choses que probablement l'auteur lui-même n'aurait jamais trouvé. Et c'est pour dire que voilà, c'est la poésie est toujours l'occasion, et Ben Lerner, Le Monde, de parler de manière très très profonde, effectivement, de cette question de la création, parce que poème, je crois que ça veut dire créer, création. Et puis de l'impossibilité d'arriver au bout de ses rêves. J'ai été un petit peu gêné par ces citations, tout simplement parce que la poésie est impossible à traduire, évidemment, et qu'on a du mal soi-même, quand on n'a pas le texte original, mais moi je ne parle pas suffisamment anglais pour apprécier les vers d'Emily Dickinson, ça, ou même c'est du misérable McGonagall, pour savoir véritablement si c'est si bien ou si épouvantable. C'est de ma faute, hein, évidemment, mais la traduction...
C'est une question insoluble.
La traduction d'un essai sur la poésie avec des exemples qui sont ceux de la culture de l'auteur, évidemment, je me suis un peu heurté à ce problème. Par exemple, à un moment donné, il cite un poème d'un dénommé Baraka, qui est, dit-il, le poète lauréat du New Jersey. C'est sur le World Trade Center. Alors, il reprend en vers les thèses conspirationnistes sur le sujet, sur lesquelles je peux avoir une opinion. Mais alors, ce qu'il en fait poétiquement parlant, ça, j'avoue que j'ai pas pu savoir si c'était si exécrable ou pas. Il évoque un sujet très très intéressant, c'est la place du poète dans la société. Là aussi, c'est très anglo-saxon, le fait que les présidents américains demandent à des poètes de célébrer leur investiture, ou le fait que le Royaume-Uni est un poète officiel. En France, le poète, c'est un personnage privé, pour pas dire rebelle, maudit, c'est Rimbaud, hein, le poète, ou Nerval. Et donc, cette question de savoir à quoi sert un poète dans la société m'a énormément intéressé.
Oui, c'est vrai qu'il s'inquiète du fait que Barack Obama reprenne cette tradition de demander à un poète d'écrire un poème, et il s'inquiète aussi du choix de la poétesse en question choisie par Obama. Donc bon, là c'est encore humour, mauvaise foi, et en même temps il touche des choses assez sensibles sur Rimbaud, alors que lui forcément lit en traduction, hein, Ben Lerner, quoi qu'il parle un peu français, non, il a vécu à Paris un moment, non, Ben Lerner, enfin il n'est pas français. De langue maternelle, comment un anglo-saxon lit-il Rimbaud?
Mais voilà, il dit des choses justes sur Rimbaud.
Oui.
Justement, sur celui qui a probablement le plus approché la question du poème.
C'est ce qu'il dit.
De la poésie. Oui.
Les poètes, évidemment, qu'on révère le plus, c'est ceux qui arrêtent très très vite. Et donc, ici, Colson, l'américain? Non, j'oublie son nom. Et Rimbaud comme exemple parfait, puisqu'ils arrêtent très tôt. Ils ont tout compris. Grégoire Le Ménager.
Oui, je suis très content d'avoir lu ce livre. Je suis très content qu'il ne soit pas plus long, parce qu'il est très dense. Ça, c'est... Et le titre est formidable. Toutes les premières pages sont formidables. Enfin, effectivement, il cultive un sens du paradoxe avec beaucoup
de malice. Là aussi, il y a un trauma. C'est comme chez Fabrice Imbert, le trauma de l'écolier qui doit apprendre une poésie, qui choisit la plus courte, mais qui se rate, parce qu'il est incapable de délivrer sa poésie.
Non, mais
la haine de la poésie, elle commence à l'école.
Oui, bien sûr. Non, mais il décline très finement ce thème de la haine de la poésie qu'il détecte un peu partout. Effectivement, il y a quelque chose qui gêne un peu, enfin qui moi, j'ai pas fait une thèse de doctorat en poésie américaine, donc c'est vrai qu'il cite des auteurs dont j'ai jamais entendu parler, il cite des textes et il fait des remarques assez pointues quand même sur. Sur la prosodie, quoi, enfin de ces textes, et pour le coup je peux absolument pas apprécier ça, donc il y a quelques pages qui me sont un peu tombées des mains quand même. Le livre est un peu victime de son érudition pour un lecteur français moyen comme moi. En revanche, dans la toute fin, on retombe sur des choses que je trouve très très intelligentes, et en particulier Étienne disait c'est dommage la rentrée littéraire, on parle que de romans et pas de poésie. Et lui, d'une certaine manière, il répond à ça, parce qu'il dit qu'en fait, tout ça, c'est une illusion d'optique, et que la poésie, c'était pas mieux avant. Alors, il tape sur des poètes contemporains, mais finalement, il nous montre que Whitman, si j'ai bien compris, que dans la poésie de Whitman, il n'y a pas ce qu'on a mis dans la poésie de Whitman depuis. On en a fait le grand poète américain qui a réussi à réconcilier l'expression d'une singularité et de l'universel. Il dit mais non, c'est pas vrai. La poésie, c'est jamais complètement universel. Et quand on le croit, c'est parce que on est un mâle dominant blanc et qu'on a pris pour de l'universalité l'expression d'un mâle dominant blanc, et que c'est très très compliqué d'arriver à l'universel. Et que la poésie, c'est toujours l'expression d'une singularité. Et ça, je trouve qu'il en parle vraiment très bien, et toujours avec de la malice. Enfin, c'est assez docte, mais c'est pas pédant non plus.
Non.
Voilà, je suis content de l'avoir lu.
Elisabeth Franck Dumas, un ou deux exemples que vous vouliez citer pour terminer?
Non, mais alors, bon, c'est vrai, oui, alors j'avoue que peut-être que j'aurais dû me poser cette question. C'est vrai que j'en ai un peu lu de la poésie en anglais. C'est très bien traduit.
Pas du jeu.
Je trouve que c'est très bien traduit. Voilà, il faut féliciter. Alors, je ne sais pas si les poèmes ont été
revus dans la traduction par Violaine Huysmans, je ne sais pas.
Ou non, ça je ne sais pas, mais je les trouve très bien traduits. Et par exemple, Dickinson, bon, ça je pense que peut-être que nos auditeurs ont déjà entendu ce nom. Peut-être sont-ils allés voir le magnifique film de Terence Davis consacré à Emily Dickinson.
Bon, on ne va pas débattre sur le film, mais allez-y.
Alors, une des caractéristiques de la poésie de Dickinson, qui apparaît évidemment en traduction aussi, et qui n'a pas besoin de traduction d'ailleurs, c'est l'utilisation des tirets. C'est quelque chose, on reconnaît même visuellement, immédiatement, un poème de Dickinson, parce qu'il est plein de tirets. Et il a cette image merveilleuse, il dit qu'il s'est toujours imaginé que ces tirets étaient des indicateurs des limites du réel. Et je trouve ça magnifique, il livre comme ça des toutes petites analyses qu'on peut recevoir sur quantité de poètes. Et c'est vrai, ce que Grégoire Le Ménager pointait est tout à fait exact. Alors, non seulement il y a des poètes qu'on a mal lus, mais en plus, on a détesté la poésie de tout temps. Ce n'est pas récent, ce n'est pas aujourd'hui qu'on n'y intéresse
pas. Parce que tout le monde a écrit des poèmes quand il était adolescent.
Voilà. Et seuls les plus grands, disait Cocteau, ont réussi à le faire oublier.
Mais non, donc voilà.
Vous laissez finir votre phrase,
Elisabeth. Ça fait des millénaires qu'on déteste la poésie. Tout ça n'est pas nouveau et pourtant, elle est encore là.
La haine de la poésie, le beau titre, évidemment très ironique, de Ben Lerner, comme tout ce qu'il écrit, hein, profond et ironique, ça le qualifie assez bien. C'est chez Alia, dans une traduction de Violaine Huissement. Et avant de conclure tout à fait cette émission, c'est l'heure de retrouver Grégoire Difiore. Et pour le jeu de la dispute, on va commencer par un rappel du jeu d'hier au soir. Et donc, rappel de la question, Grégoire, c'était...
Quel poète Eda Gauguin a financé son voyage à Tahiti en 1891 ?
Voilà, on parlait de poésie.
Je viens de me tromper. C'était la question d'aujourd'hui, ça.
Ah, c'est la question d'aujourd'hui. Ah bah, la question d'hier, c'était quoi,
ah,
là ?
Ah non, pardon, c'était celle-là.
Bah alors, c'est bon. Alors, et donc, la réponse,
la
c'est...
La réponse, c'était Stéphane Mallarmé.
Bon, et ce soir, donc, on fait gagner des invitations pour l'exposition Le Vert, un Moyen-Âge inventif, jusqu'au 8 janvier, au musée de Cluny à Paris, ce qui est effectivement peu de rapport avec Gauguin. La question est donc...
En 1994, quel peintre présidait à l'installation de vitraux abstraits dans une église romane ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, site sur lequel vous pouvez aussi réécouter cette émission, vous abonner bien sûr au podcast de l'émission, c'est important. Vous pouvez préparer vos commentaires pour l'émission de demain, à poster sur la page Facebook La Dispute FC dès maintenant, ou à moins que vous n'attendiez le direct pour commenter via le compte Twitter Dispute FC. Demain, une dispute consacrée aux séries. Dès 19h, nous serons en compagnie d'Iris Bray, Olivier Joyard et Romain Burel. À notre affiche Engrenage, nouvelle enquête, signée Anne Landois, The State de Peter Kosminski et The Deuce de David Simon et Georges Pelecanos.